Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il ne suffit pas de vouloir légiférer par ordonnance. Encore faut-il le pouvoir. Emmanuel Macron et Édouard Philippe sauront d'ici quelques jours si les électeurs leur donnent cette possibilité. Autrement dit, s'ils auront une majorité à l'Assemblée pour les y autoriser. Si tel est le cas, on connaît la réforme qui en fera l'objet dans le courant de l'été, celle du Code du travail. La précédente loi, dite loi El Khomri, n'est pourtant pas si vieille, elle a été promulguée en août dernier. Mais Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, considérait qu'elle n'allait pas assez loin. Depuis quelques jours, lui et son Premier ministre rencontrent donc les partenaires sociaux pour préparer le terrain à un nouveau texte. Axe majeur de leur projet, renforcer la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche et les dispositions législatives. Aujourd'hui, les entreprises peuvent déjà modifier le temps de travail de leurs salariés, même si le nouvel accord est moins avantageux pour ces derniers que celui qui existe au niveau des branches. Et l'idée serait d'étendre ces dérogations à d'autres domaines. Les défenseurs de cette inversion de la hiérarchie des normes considèrent qu'une telle souplesse est nécessaire pour mieux répondre aux besoins des entreprises et donc pour développer l'emploi. Ses opposants y voient au contraire une façon de fragiliser les salariés en favorisant le dumping social. Alors, droit du travail, l'accord d'entreprise doit-il primé sur la loi? C'est la question que nous allons poser à deux spécialistes de cette question. Commencez par vous, Gilbert Sette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez publié en 2015 avec Jacques Barthélémy aux éditions Odile Jacob « Réformer le droit du travail » qui avait fait l'objet d'un rapport pour Terra Nova, livre dans lequel notamment vous défendiez le fait qu'il faille substituer aux lois et aux règlements des normes issues de la négociation. Notre deuxième invité est pour l'instant au téléphone. Je dis pour l'instant parce que j'espère qu'il va vite nous rejoindre en studio. Il s'agit d'Emmanuel Dockès. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Vous venez de publier, enfin, sous votre direction, une proposition de code du travail publiée chez Dalloz, et ce sous l'égide du groupe de recherche pour un autre droit du travail. C'est un code allégé. Mais c'est quand même un code du travail. C'est une réflexion qui était née au moment du débat sur la loi El Khomri. Je crois que vous êtes en route jusqu'à nos studios, Emmanuel Dockès, manifestement. Aujourd'hui, dans Paris, c'était un peu compliqué de circuler à cause d'un certain président russe qui rend visite aux Français dans la capitale. Alors, on va parler ce soir donc de droit du travail, de cette façon de l'aménager et de voir s'il est utile ou pas d'inverser la hiérarchie des normes. Mais j'aimerais d'abord vous poser à l'un et à l'autre une question qui est sans doute une question de base. C'est qu'avant d'aménager le droit du travail, encore faut-il se poser la question de ce à quoi il est censé servir. Gilbert Sette, à quoi est censé servir le droit du travail? Protéger les salariés, faciliter les entreprises, le travail des entreprises?
Le rôle, la fonction du Code du travail, c'est évidemment de protéger les travailleurs et en particulier les salariés. Le droit du travail, aujourd'hui, protège de façon imparfaite les travailleurs et les salariés, la preuve en étant que nous sommes dans un pays, un des rares pays, des très rares pays de l'OCDE, à pâtir depuis 4 décennies d'un très fort taux de chômage. Et ce très fort taux de chômage est, entre autres raisons, dû à des rigidités du Code du travail qui dissuadent les entreprises d'embaucher. Donc ces protections n'en sont pas tout à fait. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a un Code du travail très, très lourd, très important, très foisonnant, qui empêche les partenaires sociaux, les acteurs au niveau de l'entreprise, de broder, de décider de compromis gagnant-gagnant, parce qu'il peut exister, et il existe très souvent, des compromis gagnant-gagnant au niveau des branches et des entreprises.
Emmanuel Dockès, Gilbert Sette nous dit donc, le premier rôle du droit du travail, c'est de protéger les salariés, et le droit du travail français le fait mal, la preuve, le niveau élevé de chômage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors que le droit du travail soit effectivement fait pour protéger les salariés, ça c'est un point sur lequel on va évidemment tomber d'accord. Que le code du travail soit aujourd'hui trop lourd et qu'il faille le simplifier, on va encore tomber d'accord, puisque nous on a réduit le code du travail en divisant par 4 le volume de texte applicable, ce qui prouve qu'on peut effectivement simplifier. En revanche, et c'est l'objet de votre émission, l'idée de faire des règles qui peuvent être détruites par convention collective, c'est aussi de faire des règles qui peuvent être détruites tout court, et donc des protections qui peuvent être détruites. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc, il me semble que le droit du travail n'est absolument pas la cause du chômage, qu'il faut absolument simplifier le code du travail, mais qu'il faut le simplifier tout protégeant véritablement les salariés, ce qui suppose de faire des règles qui soient valables pour tous et qui soient applicables à tous.
Il y a d'ailleurs un vrai débat, je ne sais pas d'ailleurs s'il existe toujours au même point, mais il y avait un vrai débat il y a quelques mois de cela, sur les liens de causalité entre la nature du code du travail et le niveau du chômage. Est-ce que pour vous, Emmanuel Dockès, ces liens de causalité n'existent pas et donc réformer le code du travail pour favoriser l'emploi, c'est une mauvaise piste? Et évidemment, la même question à Gilles Bercette. Emmanuel Dockès.
Alors, le chômage est une question qui est liée véritablement à l'économie et donc à la quantité d'emplois qu'on peut avoir, si vous voulez. Ce qui fait que imputer à une réglementation comme le droit du travail du chômage, c'est souvent extrêmement simpliste. D'ailleurs, on a beaucoup d'études qui ont été faites par l'OCDE et qui démontrent une espèce de neutralité du droit du travail. Vous avez des pays avec une forte protection et un très faible taux de chômage. Vous avez des pays qui n'ont quasiment pas de protection et qui ont un taux de chômage très important. Il n'y a donc pas de corrélation entre le taux de protection et le niveau du chômage. C'est extrêmement, en réalité, si vous voulez, les effets du droit du travail sur l'emploi sont des choses complexes. On a à la fois quelque chose qui protège l'emploi, parce qu'un bon droit du travail protège des salariés, leur donne confiance, les rend plus productifs. Et puis on a éventuellement une question de coût du travail. Donc vous avez une complexité dans cet effet sur le chômage qu'il faut toujours prendre en compte. Il faut éviter tous les raisonnements simplistes.
Alors justement, vous, Gilles Bercette, dans votre livre « Réformer le droit du travail », vous vous référez à des données de l'OCDE pour dire qu'au contraire, je vais citer une phrase que j'ai trouvée dans votre livre, « plus l'intensité de la protection de l'emploi par des normes réglementaires est élevée, donc plus le droit du travail, on va dire, est étoffé, disons, et plus le taux d'emploi est faible. » Vous dites plutôt
absolument,
l'inverse.
Absolument, et plus le taux de chômage est élevé. Ce sont des corrélations maintenant admises par tous, hein, et d'ailleurs tout le monde peut les reproduire.
Manifestement pas tout ensemble, à fait, hein, puisque Emmanuel Dockès vient plutôt de nous dire l'inverse.
Oui, le domaine des chiffres et de l'économie est plutôt mon domaine. Et la quantité d'études, d'analyses, qui, par des moyens scientifiques tout à fait avérés par des publications dans les meilleures revues du monde, montrent que ces protections sont contradictoires avec un haut niveau de taux d'emploi et s'accompagnent souvent d'un fort niveau de taux de chômage. Ces études sont très très abondantes, je dirais même pas majoritaires, elles sont hégémoniques en ce domaine. Mais la question, pour aller juste un petit peu plus loin que ce qui vient d'être dit, la question est de savoir comment on peut associer protection et efficacité. Efficacité économique, donc, avec un bas taux de chômage, des entreprises qui prendront des risques parce que le prix du risque ne sera pas trop élevé. Et puis, protection des travailleurs. Qu'est-ce qui garantit que dans ces changements, les travailleurs seront protégés? Eh bien, c'est justement ce qui a été voulu d'ailleurs par les deux principales centrales syndicales en France en 2008. C'est justement le fait que les accords ne seront valides, les changements ne seront valides dans certaines limites, qui sont évidemment le respect des libertés fondamentales, des principes, du droit supranational, etc. Eh bien, les changements ne seront valides que s'ils sont actés par un accord collectif signé du côté des salariés, par des syndicats ayant obtenu une majorité des voix aux dernières élections professionnelles. Et ces représentants des salariés pourront être démis aux élections suivantes si les orientations qu'ils prennent ne correspondent pas aux attentes des salariés. Vous voyez, c'est vraiment les représentants des salariés qui vont contribuer de façon fondamentale au changement dans des limites, bien entendu, que j'ai évoquées tout à l'heure.
Alors on va examiner justement les changements qui sont à l'étude actuellement, sachant qu'Emmanuel Dockès, vous souhaitiez à nouveau réagir.
Oui, alors sur les corrélations fantastiques qui viennent d'être citées par par Monsieur Sept, elles sont loin d'être aussi univoques qu'il veut bien le dire, et cet argument d'autorité est assez choquant, parce qu'on a des arguments qui viennent de l'OCDE et qui disent un peu le contraire. Mais indépendamment de ça, ce que je voulais dire, c'est que l'idée selon laquelle on a un dialogue social qui peut apporter beaucoup en droit du travail est effectivement une excellente idée. Dire que le dialogue social, en revanche, permet une espèce d'assurance que les résultats seront justes est une simplification malheureusement douloureuse et un peu grossière. Vous savez, le dialogue social se passe parfois très bien, et c'est tant mieux, mais parfois, il se passe plus difficilement. Et à ce moment-là, on peut avoir de sérieux soucis. Et si vous voulez, dans certaines entreprises, il y a de véritables déséquilibres qui se créent. Il peut y avoir des négociations collectives qui, de ce fait-là, sont déséquilibrées. Et si vous avez des négociations déséquilibrées, vous avez des accords qui sont déséquilibrés, ce qui conduit à des baisses des protections et à des baisses du droit du travail. Si vous n'avez pas de socle protecteur de base, vous voyez ce que je veux dire. Si vous n'avez pas de socle protecteur de base, les plus faibles risquent de plus avoir de protection.
Alors Emmanuel Dauquez, j'entends à votre souffle que vous êtes peut-être en train d'arriver vers la maison de la radio. Donc, je vais vous laisser arriver jusqu'en studio pour qu'on essaie de poursuivre ce débat, même si c'est un petit peu compliqué ce soir, comme les auditrices et les auditeurs peuvent l'entendre. Allons justement sur cette question. Donc, d'une inversion de la hiérarchie des normes, Gilbert Sept, et de la primauté qui pourrait être donnée aux accords d'entreprise, puisque c'est un des éléments structurants de la réforme que semble vouloir Emmanuel Macron, même si il faudra encore attendre un petit peu pour en avoir des éléments plus précis.
Oui.
Mais est-ce que vous considérez, par exemple, est-ce qu'on peut partez-vous du principe que c'est au niveau local que la compréhension de ce qui est utile aux salariés et aux entreprises est la plus forte et qu'il faut rapprocher au maximum la négociation de l'entreprise?
Moi, je remarque que cette discussion est immédiatement passionnelle. Vous voyez, les arguments sont ce que vous dites est simpliste, ce que vous dites transforme grossièrement les réalités. Moi, je me place d'un point de vue qui est un petit peu différent. De quel droit je vais dire à des gens « Non, votre intérêt, je le connais mieux que vous ». De quel droit je dirais ça des représentants de salariés, des représentants syndicaux de salariés qui ont bénéficié d'une majorité aux précédentes élections professionnelles? D'où je parle pour dire que leur intérêt est plutôt celui-ci que celui-là? Le rôle, vous voyez, du Code du travail, c'est de protéger, bien évidemment, et ce qui est prévu, c'est de dire aux gens, si vous trouvez que de nouvelles normes sont plus protectrices que des normes communes qui existent dans le Code du travail, à vous de les substituer à ces normes communes qui existent dans le Code du travail. Et d'ailleurs, les partenaires sociaux et les gouvernements de gauche successifs, depuis 30 ans, ont fait cela en France. Les lois Roux ont fait ça, ont permis de déroger déjà au droit de la durée du travail dans de multiples domaines, dans de multiples aspects, en disant « ça peut se faire, mais ça doit se faire » par accord collectif, ce qui n'était pas à l'époque majoritaire. Et puis les partenaires sociaux, par exemple dans l'accord national interprofessionnel, hein, au niveau national du 11 janvier 2013, ont dit, eh bien, dans certaines conditions, on pourra déroger à certaines règles du Code du travail par accord majoritaire, si l'entreprise est exposée à des grandes difficultés, on pourra revenir sur abaisser le salaire mensuel, abaisser la durée du travail pour passer un cap difficile contre des garanties d'emploi. Eux, ils considéraient que ça pouvait être l'avantage des salariés concernés.
Mais
de quel droit
vous...
je vais leur dire, moi, que c'est pas leur intérêt?
Mais juste d'un mot, Gilbert Sept, Emmanuel Dauquez vient d'arriver dans notre studio, je lui laisse le temps de reprendre un petit peu son souffle. Est-ce que pour vous, ça doit rester l'exception, ces dérogations, ou bien est-ce que vous considérez au contraire qu'il faut aller vers des accords d'entreprise qui, à terme, priment sur le reste? C'est-à-dire que ce serait finalement ce que régleraient les accords de branche ou la loi qui deviendrait l'exception?
Non. Déjà, ce qui est prévu, c'est que les accords d'entreprise et de branche, c'est-à-dire les conventions signées de façon majoritaire par les représentants des légitimes des salariés, du côté des salariés, eh bien, ces normes conventionnelles de branche ou d'entreprise se substituent à toutes les normes du Code du travail dans les limites des principes et dans les limites du droit supranational. Et puis, à l'intérieur des normes, que les normes signées au niveau de l'entreprise s'imposent par rapport aux normes signées au niveau de la branche qui deviennent supplétives des premières. Vous voyez, c'est ce qui est prévu dans les limites, cette fois-ci, d'un ordre social professionnel défini au niveau de la branche, les minima salariaux de branche, les catégories professionnelles, tout un ensemble de choses qui définissent en quelque sorte l'identité de la branche.
Alors là, Emmanuel Dauquez, on est face à la perspective d'un véritable basculement. Est-ce que vous y êtes absolument hostile? Est-ce que vous considérez que dans certains cas, cela peut être utile de faire primer des accords d'entreprise sur les accords de branche, sur la réglementation nationale? Et plus largement, que pensez-vous de cet horizon que vient de nous dessiner Gilbert Sept?
L'idée de convention collective d'entreprise qui puisse éventuellement déroger à certaines protections légales est une idée très ancienne, elle a 30 ans, et c'est une idée que même au sein du code que nous avons proposé, qui n'est pas une idée que nous rejetons. La question n'est pas exactement celle-là seulement, puisque c'est une idée très ancienne. Nous sommes depuis 30 ans dans des réformes successives qui accroissent le champ de la dérogation possible. De plus en plus, des principes qui jusqu'ici étaient d'ordre public peuvent être détruits par convention collective d'entreprise. Alors un petit peu ça va.
Détruits ou améliorés, pardonnez-moi.
Alors l'amélioration n'a jamais posé problème, bien entendu. Une convention collective d'entreprise peut toujours améliorer, elle pouvait le faire, elle peut encore le faire. La question qui est ici débattue, c'est la possibilité de détruire des avantages sociaux par convention collective d'entreprise. Alors dans certains cas, on peut dire qu'une marge d'adaptation fait sens et qu'on peut effectivement conserver cette marge d'adaptation. La grande difficulté qu'on a, c'est jusqu'où est-ce qu'on va permettre la destruction des principes qui vont rester? On dit, on va, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, vous avez dit, on va garder quelques principes, quelques grands principes.
Et en... Je n'ai pas dit ça comme ça.
Vous avez dit qu'on allait quand même garder un socle d'ordre public.
Évidemment. Et j'ai pas dit quelques principes.
Exactement.
Les principes. Donc, le droit supranational.
Tout à fait, tout à fait.
C'est
donc,
tout à
vous
fait
allez, donc, on est bien là. En fait, si on est sur ce principe-là, sur cette idée-là, on aurait un socle qui serait d'ordre public et puis des possibilités de dérogation sur d'autres thèmes. Si on est à ce niveau-là de la discussion, tout le monde est d'accord. La difficulté n'est pas là, c'est quelle est la taille du socle.
Alors, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'on met dans ce socle-là? Vous mettriez quoi, Emmanuel Dauquès, dans ce socle?
Et alors, typiquement, actuellement...
Le socle, c'est quoi? C'est justement le code du travail que vous avez réécrit, que vous avez réduit par quatre.
Hein. On a divisé par quatre. En fait, il faut la taille de ce socle qui est débattue, c'est... Aujourd'hui, certains nous disent qu'il faut réduire encore ce socle, et d'autres disent, c'est ce que je pense, il faut accroître ce socle. Et alors, pour prendre position dans ce débat, la grande question, c'est de savoir où est-ce qu'on en est. Alors, où est-ce qu'on en est? Il faut savoir qu'aujourd'hui, par convention collective, d'ores et déjà, on peut permettre le paiement des heures supplémentaires tous les 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, vous travaillez et vous n'êtes pas payé de vos heures supplémentaires pendant 3 ans, et au bout de 3 ans, vous êtes payé. D'ores et déjà, par convention collective, on peut travailler 60 heures, payer 35. C'est le système du forfait jour. D'ores et déjà, par convention collective, on peut dire que le temps des horloges est faux et que si vous travaillez 10 heures, c'est les horaires d'équivalence, en réalité, on ne vous comptera que 5 heures, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les possibilités de destruction par convention collective sont d'ores et déjà absolument énormes. Simplement, ce discours qui est là depuis 30 ans, ce discours de dérogation, on en veut plus, on en veut plus, ce que dit Monsieur Dauquès, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on entend depuis 30 ans, on en veut plus, on en veut plus, mais vous en avez déjà énormément. À un moment, il va falloir conserver quelque chose qui fasse socle et quelque chose qui fasse droit commun. Droit commun pour les travailleurs.
Alors qu'est-ce que vous conservez justement,
Gilles Dauquès? Alors, évidemment, les choses ont beaucoup avancé depuis 30 ans, et beaucoup avancé dans un domaine spécifique. Quel domaine? Du droit de la durée du travail. C'est vraiment le domaine qui a été celui de l'expérimentation de la dérogation. Mais deux changements sont prévus par rapport à ça. Deux changements au moins. Le premier changement, c'est que ça sera dans tous les domaines abordés par le Code du travail, dans les limites des principes et du droit supranational.
Et parce qu'il faut rappeler que la loi El Khomri, elle, prenait déjà en charge ces modifications.
Que les normes conventionnelles s'imposeront aux dispositions, aux autres dispositions communes du Code du travail.
Mais par exemple, sur le salaire minimum, par exemple, ça peut être ça?
Non, pas le salaire minimum, mais par exemple, les obligations associées aux seuils sociaux. Vous voyez, les 65 obligations associées au seuil de franchissement des 50 salariés. Si les partenaires sociaux s'entendent de façon majoritaire à dire « Bon, bien, on va sursoir transitoirement pour un certain temps à telle obligation, celle de la création d'un comité d'entreprise, par exemple. »
Ça, c'est important.
Bon, et dans ces cas-là, il reviendra. Je veux dire, c'est à eux de le décider. Ça sera à eux de le décider d'une façon majoritaire par accord collectif. Vous voyez, ça ne sera pas à quelqu'un d'extérieur de leur dire « Votre intérêt est celui-là. » Et puis, deuxième changement important, il ne s'agit plus de déroger. Il ne s'agit plus de déroger, on n'est plus dans la dérogation. Les normes légales deviendront supplétives. Les normes conventionnelles, c'est différent. Dans les limites des principes et du droit supranational, mais encore une fois, via des accords collectifs majoritaires. Oui. Vous voyez, et moi, je m'interdis de dire aux gens qui signeront de tels accords collectifs majoritaires, vous avez tort, votre intérêt n'est pas là. Vous renoncez à tel avantage en pensant que l'intérêt, enfin que globalement l'accord collectif que vous signez présente un intérêt favorable, vous renoncez à telle chose parce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent apporter des avancées supérieures à ce que vous perdez éventuellement sur certains plans. De quel droit je leur dirais non, vous avez tort?
Alors Emmanuel Dauquès, justement, sur cet exemple-là, par exemple, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait étudier, mais prenons celui-ci. qui serait donc une possibilité de modifier les seuils sociaux à partir desquels, par exemple, on peut créer un comité d'entreprise ou on doit avoir un syndicat. Effectivement, ce que dit Gilles Berset, si les représentants syndicaux d'une entreprise avec l'entreprise se mettent d'accord sur une modification, pourquoi s'y opposer? Est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas confiance en ces représentants syndicaux qui seraient finalement moins aptes à décider que soit le législateur, soit les représentants syndicaux nationaux?
Donc là, première chose, là, on a cette volonté d'étendre la supplétivité et donc de rendre supplétives toutes les dispositions qui sont relatives à la représentation du personnel pour des personnes qui prônent le dialogue social, considérer que la présence d'élus est quelque chose de supplétif, parce que quand on dit que c'est une question de seuil, bah oui, il y a qu'à le monter à 100, 200, 300, et donc à la fin, la représentation du personnel elle-même devient supplétive. C'est très très inquiétant ce que je viens d'entendre. Mais la question que vous m'avez posée est bien plus intéressante, c'est comment est-ce que, et de quel droit est-ce qu'on peut intervenir pour dire, voilà, vous vous êtes mis d'accord et l'ordre public s'impose malgré votre accord. Quelle est, en quelque sorte, la légitimité d'une règle qui s'impose contre l'avis à la fois des représentants syndicaux et de l'employeur? Eh bien, ça, c'est une histoire qui est l'histoire de l'accord. Qui dit contractuel ne dit pas forcément juste. Pour que le contrat soit porteur de justice, il faut qu'il y ait un équilibre dans la négociation. Il faut que les deux parties soient sur un pied d'égalité. Et lorsque les deux parties sont sur un pied d'égalité, on peut espérer, on peut escompter qu'on a un accord juste. Le problème, c'est lorsque les deux parties ne sont pas sur un pied d'égalité et que l'une des deux est en puissance, est en position de force.
Mais comment est-ce qu'on juge de l'inégalité du rapport de force dans une entreprise, par exemple?
Dans une entreprise, le rapport de force n'est pas forcément inégal. Tout dépend. Vous pouvez avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une présence syndicale forte, avec une capacité de mobilisation forte, avec de la grève en menace, qui fait que vous avez un certain équilibre et qui obtiendra effectivement la possibilité d'un accord juste. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, les organisations syndicales sont relativement faibles. Vous avez une situation dans laquelle l'employeur peut faire des menaces sur l'emploi et dire « si vous ne signez pas, moi je retire mes billes et je vais dans un autre pays ». Et donc, dans ce cas-là, si vous voulez, la menace sur l'emploi qui est particulièrement forte au niveau de certaines entreprises, peut conduire des délégués syndicaux qui sont parfaitement de bonne foi à, en quelque sorte, se soumettre parce qu'ils sont en position de faiblesse. Et à ce moment-là, vous aurez des accords collectifs qui seront, et c'est pas du tout une hypothèse d'école, c'est très fréquent, des accords collectifs qui seront déséquilibrés. Et donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous ouvrez des enfers possibles sous réserve d'accord, eh bien, vous pouvez être certain que dans certaines situations, pas de façon forcément majoritaire, mais dans certaines situations, ces enfers possibles deviendront des enfers réels. Et donc, il faut faire attention de préserver les protections pour tous.
Ces cas de déséquilibre, Gilles Berset, ils peuvent exister dans certaines entreprises où des organisations ou des représentants syndicaux ne sont pas sur un pied d'égalité, si tant est que ça puisse exister, avec l'employeur. Comment est-ce que dans une société, dans un droit du travail qui aurait totalement inversé la hiérarchie des normes, on peut quand même faire en sorte que les accords ne soient pas qui sont passés, fussent-ils majoritaires, ne soient pas déséquilibrés et totalement au détriment des salariés.
Alors, d'abord, je voudrais dire que les contours de ce qu'on a évoqué sous le nom de principe ont déjà été développés par deux éminents juristes qui s'appellent Balinter et Lyon-Camp dans un ouvrage qui est sorti également en 2015. Vous voyez, on part pas de zéro en ce domaine, loin de là, très très loin de là. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que vous avez raison, et c'est pour ça qu'on consacre un chapitre entier de notre ouvrage, Jacques Barthélémy et moi, à dire comment la négociation doit être construite pour être équilibrée, qu'est-ce qui peut garantir cet équilibre. Et le fait que la négociation doit s'engager, d'abord, par un accord de méthode sur la façon dont elle sera conduite, le droit à expertise des différentes parties, en particulier d'ailleurs des représentants des salariés, s'ils le jugent utile à un moment de la négociation. Vous voyez, tous ces éléments-là qui sont indispensables pour l'équilibre d'une négociation, eh bien, nous paraissent évidemment fondamentaux dans le développement d'une négociation collective équilibré. C'est l'objet d'un chapitre intégral de notre ouvrage. C'est important, c'est vrai. Alors maintenant, est-ce qu'on évite tout risque? Non, on n'évite pas tout risque. C'est clair, mais pour l'instant, le risque très grand devant lequel on est, c'est de demeurer, nous, en France, dans une situation qu'on connaît depuis 4 décennies de chômage massif, que très peu de pays de l'OCDE connaissent aujourd'hui. Et je voulais vous illustrer tout à l'heure ce que j'évoquais quand je parlais des obligations associées aux seuils sociaux d'une façon concrète. Imaginez une entreprise, bon, je caricature, hein, je simplifie à l'extrême, de 48 salariés qui a l'opportunité d'un marché avec des incertitudes sur ce marché, etc. Bon, elle se dit, bon, est-ce que je tente le pas ou est-ce que je ne le tente pas? Si elle le tente, elle peut passer le seuil de 50 salariés, puis évidemment être soumise aux 65 obligations du franchissement de ce seuil. Et puis, si ça marche pas, elle reviendrait à 48, mais par effet de cliquet, évidemment, c'est très difficile de revenir en arrière sur pas mal de choses. Elle sera en situation concurrentielle difficile par rapport à d'autres entreprises qui n'auront pas connu ce passage et ces changements. Pourquoi ne pas donner aux partenaires sociaux la possibilité de signer un accord disant « Bon bien, pour 2 ans, 3 ans, on va voir si ça marche ». On va voir si ça marche et on tente le coup. Le coût du risque sera plus faible. Et l'entreprise prendra peut-être ce risque-là. Des marchés seront là, des carrières seront possibles, des gains salariaux seront là. Une sécurité de l'emploi sera offerte de cette façon-là.
Emmanuel Dequès.
Le franchissement des seuils, d'abord d'un point de vue technique, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça dans l'instant. Hein. Il faut qu'il y ait 12 mois.
J'ai dit que je simplifiais pour faire l'image.
Très bien. Et la deuxième chose que vous avez dite, c'est que vous n'évitez pas les risques, effectivement, en améliorant, et c'est vrai qu'il faut améliorer la qualité du dialogue social. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque tout va bien, c'est-à-dire que vous avez un dialogue social équilibré, que l'entreprise est une bonus et que tout va bien, après tout va bien. Et on n'a pas tellement besoin de droit du travail, c'est-à-dire pas là que les questions sont les plus difficiles. La question devient difficile lorsque ça va pas très bien et lorsque le déséquilibre existe. Vous savez, si on fait un socle de protection commune, il s'agit pas de protéger les plus forts. Les plus forts s'en sortent très bien, ils font leurs négociations collectives, ils récupèrent leurs avantages. Si on fait un socle de protection commun, c'est pour protéger les plus faibles. C'est la base qui doit protéger les plus faibles.
Emmanuel Dequès, est-ce que les plus faibles aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont en CDD, qui sont en intérim, qui sont les plus précaires? Et est-ce que le droit du travail aujourd'hui ne les fragilise pas davantage qu'il ne les protège?
Alors,
vous savez que c'est un des arguments justement qui a été avancé beaucoup pour justifier la précédente loi travail,
alors,
par exemple.
L'argument est complet et il est utilisé tout le temps et il est au final assez peu convaincant. D'ailleurs, là, on vient de voir un exemple qui est caricatural. Vous avez maintenant, on nous dit, voilà, la présence de délégués du personnel, de membres du comité d'entreprise, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir empêcher par convention collective pour créer des emplois. Enfin, le coût est très limité de ces heures de délégation et c'est pas ça qui empêche l'emploi. Il faut bien comprendre qu'un employeur, s'il a besoin de travail, il va employer des salariés. S'il n'a pas besoin de travail, il ne va pas employer des salariés. D'ailleurs, on le voit, vous pouvez donner de l'argent en faisant un CICE aux employeurs, on s'aperçoit qu'ils embauchent assez peu. C'est pas la question. La question, c'est d'abord une question de besoin de travail. Et si vous avez un besoin de travail, il faut le faire. D'ailleurs, la voie qui est véritablement créatrice d'emplois dans une époque qui est l'époque de la robotisation, qui est une époque de réduction d'un certain nombre d'emplois, pour créer véritablement de l'emploi, aujourd'hui, il va falloir qu'on pense à partager le travail. Et non seulement on ne pense pas à partager le travail, mais il semble que c'est la concentration sur les mêmes jusqu'au burn-out du travail qui est au contraire la direction dans laquelle on souhaite s'engager.
Est-ce que cette capacité à modifier localement le droit du travail, c'est quelque chose que demandent, qu'attendent vraiment les entreprises, Gilbert Sept? Je vous pose cette question parce qu'il y avait un dialogue très intéressant dans le journal Les Échos aujourd'hui entre deux spécialistes, on va dire, de la négociation avec les syndicats, Raymond Soubi et Pierre Ferracci. Et ce que dit Raymond Soubi, qui a été conseiller de Jacques Chirac, il dit « Ce que demandent surtout les entreprises, c'est de simplifier le droit du travail et de ne pas changer tout le temps, pas de le faire elles-mêmes. Donc ce qu'elles veulent, c'est de la stabilité, pas forcément de la capacité à pouvoir intervenir sur les règles. »
Oui, vous savez, Raymond Soubi a été l'un des acteurs de grands changements qui ont ouvert la porte à ce qui est la loi El Khomri et aux changements qui sont envisagés aujourd'hui. Donc je laisse gérer les contradictions que vont apporter, parce que je n'ai pas lu cet article. Mais la particularité de règles et de normes qu'on construit soi-même, c'est qu'on les connaît mieux que des normes qui viennent de l'extérieur et qu'on n'a pas élaboré soi-même. Vous voyez, les normes conventionnelles peuvent parfois être très très complexes, mais les acteurs qui les ont faites les maîtrisent, puisque c'est eux qui les ont construites au terme d'une négociation dans laquelle il y aura eu des avancées, il y aura une construction, un travail de construction en quelque sorte. Et pour m'inscrire complètement en faux avec ce qui vient d'être dit, l'emploi et la croissance, ça vient pas comme ça. Ça vient pas comme ça. Ça se décrète pas d'un claquement de doigts. La compétitivité, ça existe. La prise de risque et le coût de la prise de risque, c'est des choses qui existent. Plus les prises de risque pour les entreprises ont un coût élevé, eh bien moins elles prennent de risques, ça va de soi. Et plus la compétitivité est faible, plus on perd en marché. Alors il y a des comparaisons qui ont été faites, hélas à ma connaissance, seulement sur la France et sur l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne. Sur le coup, simplement, par exemple, en délégation horaire, vous voyez, des institutions représentatives du personnel. Eh bien, ce coût ajoute, en moyenne, parce que les choses changent selon les tailles d'entreprise, etc. Bon, c'est assez complexe, mais en moyenne, ça rajoute 1,5% de coût du travail en France comparé à l'Allemagne. Oui, mais toutes choses égales par ailleurs.
Si vous rajoutez
est-ce que les salariés sont moins bien représentés en Allemagne ?
Mais Gilbert Sette, si vous rajoutez de la négociation au niveau de l'entreprise, ça va aussi représenter un coût pour les entreprises, plutôt que de le déléguer aux instances nationales.
Ça sera pour construire, pour fabriquer des normes qui leur sembleront adaptées. Il ne vous a pas échappé que cette réforme est envisagée simultanément à une autre réforme, la simplification des institutions représentatives du personnel. Est-ce que les salariés connaissent bien les compétences spécifiques des différentes instances représentatives du personnel, délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, etc. Je crois que très peu de gens les connaissent. Le coût de la superposition de ces différentes structures est énorme. Et c'est pas en superposant énormément de structures avec des délégations horaires spécifiques qu'on protège forcément mieux les salariés. Bien au contraire.
Manuel Dockès.
Oui, alors en ce qui concerne la simplification du droit du travail, nous verrons ce qui va être fait, mais je doute que ce soit de véritables simplifications. Vous nous parlez de simplification de la représentation du personnel, et effectivement, on peut réfléchir à des simplifications. Et d'ailleurs, dans notre proposition de code du travail, il y a un certain nombre de simplifications. Ce qui dit simplification ne veut pas dire forcément fusion sans aucune réflexion sur les rôles particuliers que les différentes instances peuvent avoir. Et l'idée selon laquelle on pourrait tout faire une espèce de magma global en oubliant par exemple la spécificité des règles de sécurité et des élus qui doivent veiller à la sécurité, puisque quand vous dites qu'il faut tout simplifier, ça veut dire par exemple que les élus du CHSCT n'auront plus ce rôle spécifique. Vous savez, on a besoin de représentants du personnel qui soient spécialisés dans les règles de sécurité, spécialement dans les grandes entreprises qui ont des difficultés particulières. Ce que je voulais dire plus essentiellement, je ne sais pas si ce que vous dites préfigure ou pas ce qui va se passer, mais si jamais ça devait préfigurer notre avenir, ce serait un avenir assez noir, puisque on a tout de même en France encore quelques règles d'ordre public qui permettent de garantir que quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous bénéficiez d'un petit socle de protection. Et ça, je pense que c'est extrêmement précieux dans une société, particulièrement dans une société qui veut lutter un tout petit peu contre les inégalités. Les inégalités sont quelque chose qui ravage vraiment la France. Et avoir un socle de protection égal pour tous, c'est vraiment un élément absolument essentiel dans cette lutte contre les inégalités.
La réflexion sur la réforme du droit du travail est en cours. Vous y avez l'un et l'autre réfléchi. Est-ce que vous avez d'ailleurs été approché justement par les équipes autour d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe pour contribuer, on va dire, à cette réforme, Gilbert
Sette ? Sur le point qui vient d'être évoqué...
Vous ne me répondez pas. Hein.
Non, je vais vous répondre, mais sur le point qui vient d'être évoqué, il y a évidemment accord. Il faut qu'il y ait un socle. D'ailleurs, c'est ce que j'appelle ce qu'on appelle les principes. Et puis, par ailleurs, il y a le droit supranational qui s'impose à nous, bien évidemment. Donc, dans ce domaine-là, ce socle-là, mais non, pas le réduire. Ce socle-là a une essence qui a été bien caractérisée, d'ailleurs, par Badinter et Lyon-Caen, a une essence qui dépasse, d'ailleurs, notre code du travail lui-même. Vous voyez, c'est quelque chose qui ressort des libertés fondamentales de l'individu, des droits fondamentaux. C'est quelque chose d'essentiel. Et ça, il va de soi qu'on ne peut pas y déroger. C'est quelque chose qui a été caractérisé, le travail reste à faire encore, par Badinter et Lyon-Caen, mais qui a été bien avancé par leur travail. Alors maintenant, sur l'inspiration, évidemment, Jacques Barthélémy et moi constatons avec avec satisfaction que les orientations que nous évoquons depuis maintenant plus de 15 ans sont largement reprises dans le débat économique et dans les propositions d'Emmanuel Macron. Maintenant, nous restons des spécialistes, des experts externes à ce travail d'élaboration plus concret des changements qui vont être faits.
Alors je vous laisse et réagir Emmanuel Decaisse à ce que disait Gilles Berset et aussi répondre à la question de savoir en quoi finalement le travail que vous avez effectué de votre côté pourrait, on va dire, contribuer ou pas à la réflexion qui est en cours.
Alors juste pour répondre d'un mot, on est bien là dans la question du socle. Quand vous dites que ce socle, c'est les libertés fondamentales, quand vous faites référence à cet ouvrage de messieurs Badinter et Lioncan, vous faites référence à un socle qui est vraiment petit. C'est un socle de quelques pages. Et c'est un socle qui est même plus court que les déclarations de droits fondamentaux qu'on trouve dans la déclaration de l'OIT. Au niveau mondial, les conventions de l'OIT représentent déjà plus de volume que simplement ce qui est proposé là.
C'est-à-dire que il y a le salaire minimum, la durée maximale de manière de travail.
Oui, vous avez une soixantaine de petites règles. Mais si vous voulez, les règles de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail, les règles qui s'appliquent au niveau mondial sont déjà plus exigeantes que ce petit texte qui nous a été fourni. Ce qui fait qu'on est là dans la réduction du droit du travail à l'os. Il reste vraiment que ce qu'on ne peut plus enlever sans violer le droit mondial, sans violer les traités internationaux. Et je vous assure que si on regarde le niveau mondial et si on veut tomber à ce niveau-là, eh ben on va quand même tomber vraiment très très bas. Donc mon avis, c'est qu'on a déjà un droit du travail, vous savez, qui a été bien abîmé. On n'est pas la première réforme qui diminue l'ordre public. Eh bien, reconstruire un droit du travail plus clair, c'est aussi recréer et réaffirmer un certain nombre de principes. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, dans le débat, on a la simplicité et la prévisibilité du droit du travail qui reviennent tout le temps. Et ça, je peux vous dire que nous sommes des ardents défenseurs de la simplicité et de la prévisibilité du droit du travail. Actuellement, si les entreprises hésitent à investir, c'est aussi parce qu'on a un droit du travail extrêmement complexe et aussi un droit du travail continuellement changeant. Donc il serait bon de faire un droit du travail plus simple et plus stable. Et pour ça, il n'y a vraiment qu'une seule façon de le faire. C'est pas en multipliant encore les petites dérogations un peu dégoûtantes qu'on arrête de nous vendre ce genre de choses. Il faut faire quelque chose de clair, court, simple et aussi d'ordre public. Et c'est pour ça qu'on a écrit un code qui est vraiment, là pour le coup ça peut servir d'exemple, il est vraiment 4 fois plus petit. Donc vous voyez ce que je veux dire, on a fait un effort de simplification qui est considérable. Et j'espère que notre travail pourra être utilisé. Certes, c'est du vrai droit, mais certes, c'est du droit qui doit être appliqué, mais c'est aussi du droit prévisible qui permet de clarifier les choses et qui peut aussi rassurer les investisseurs internationaux.
Gilles Berset, la clarté et la stabilité, est-ce que ce sont au moins 2 exigences sur lesquelles vous pouvez être d'accord avec Emmanuel Decaisse ?
Ça va de soi. Et qui peut prétendre aujourd'hui maîtriser ne serait-ce que le quart ou le cinquième du code du travail compte tenu de son épaisseur et de sa complexité? C'est quelque chose de tout à fait impossible. Mais par rapport à
donc
à
vous
l'idée,
soutenez notre travail,
par rapport
c'est
à l'idée par rapport à l'idée de dérogation dégoûtante, il ne s'agit pas de déroger dans ce qui est proposé. On n'est plus dans la dérogation. Pourquoi employer ce mot?
Mais vous êtes dans la, complexité.
On est dans la supplétivité. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que les normes construites par des acteurs qui les maîtriseront parce qu'ils les auront construites, se substitueront à des normes souvent moins comprises et plus complexes, qui sont celles communes du code du travail. Vous voyez, c'est là le changement fondamental. Dans l'articulation d'ailleurs accord d'entreprise, accord de branche, vous voyez l'articulation entre ces deux niveaux de signature, de négociation et de signature de convention. Ce qui est vraiment intéressant de remarquer, c'est que les partenaires sociaux eux-mêmes, et d'ailleurs Force Ouvrière avait signé cela en juillet 2001, s'étaient mis d'accord pour dire il faut permettre à l'accord d'entreprise de s'imposer par rapport à l'accord de branche.
Quelle horreur, sans France Ouvrière, ils ont les cheveux qui se hérissent sur la tête en vous
entendant. C'est le cas, c'est l'accord du 21 juillet 2001 qui a donné d'ailleurs lieu à la loi du 4 mai 2004 que vous connaissez bien.
Force Ouvrière défend la force obligatoire des conventions collectives de branche.
Eh bien, ça a été signé.
Je vous assure.
Par Force Ouvrière.
Il y a une question aussi qu'on n'a pas évoquée, qui est la question...
Et c'est la fin de l'émission.
Ah oui, pardon. C'est entre les conventions de branche et les conventions d'entreprise. Il y a cette question-là qui est celle de tout passer dans les conventions collectives d'entreprise.
Non, pas tout.
Vous voulez que les conventions d'entreprise l'emportent.
Dans des limites.
Et ce que je veux dire, c'est que ça...
Dans des limites.
On ne peut pas, dans les conventions collectives d'entreprise, il faut bien comprendre que même si tout le monde est de bonne foi, vous ne pouvez pas augmenter le salaire dans une entreprise si vous ne l'augmentez pas dans l'entreprise qui est immédiatement concurrente. La négociation au niveau des branches doit absolument être impérative, et ça c'est indispensable, ne serait-ce que pour des raisons d'égalisation de la concurrence.
Pour l'égalité des salaires,
pour que
tout le monde ait le même salaire.
La concurrence.
Tout le monde ait le même salaire partout.
Égaliser la concurrence, pas du tout.
Un seul salaire pour tout le monde.
Bien sûr que non.
Dans une branche.
Une caricature.
Non, il y a des minima salariaux.
Des minima. Mais
ben oui,
des minima.
Ben les minima salariaux, personne n'a envisagé de les remettre en cause. Personne.
Le
c'est
débat,
l'ordre public professionnel.
Le débat
personne.
A commencé il y a déjà quelques mois et il est loin d'être terminé. Merci beaucoup à tous les deux. Vous entendez notre générique. C'est la fin de cette discussion. Merci Emmanuel Dockès. Merci Gilbert Sette. Les références de vos ouvrages, c'est sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain. Demain, nous poserons la question suivante. Quelles concessions le gouvernement devra-t-il faire à Nicolas Hulot ? Dans un instant, vous allez retrouver Ping Pong avec un couple qui se reforme, Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Hervé, oui, c'est un peu une sorte de comédie de remariage, Ping Pong.
Et ce soir, qui recevez-vous ?
Eh bien, nous recevons deux comédiennes qui brûlent les planches, à la fois au sens figuré et au sens propre, avec... Dominique Blanc, qui joue la mère de Jésus dans Le Testament de Marie, mise en scène Deborah Warner, actuellement au Théâtre de l'Odéon à Paris jusqu'au 3 juin, et avec Valérie Dréville, qui incarne Médée dans Médée Matériaux d'Ainer Müller, mise en scène d'Anatoly Vassiliev. C'est aussi à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord, et également jusqu'au 3 juin.
Et ce sera...
Et,
oui, pardon.
Il y a une troisième femme, abrasive, pour compléter l'affiche, c'est la révélation soul anglaise Iso Fitzroy qui sera en live.
Ça marche. On vous retrouve dans un instant après le rappel des titres.